Cette semaine est passé le jour du souvenir au Canada, n'est-ce pas? Est-ce que je le dis bien, le jour du souvenir? Parce que ce jour a quand même d'autres noms dans d'autres pays, dans d'autres langages. Mais aujourd'hui, je vais insister sur la traduction francophone, le jour du souvenir, Remembrance Day en anglais pour les Canadiens, et puis bien d'autres appellations de par le monde. Ce jour du souvenir, est-ce que ça a souligné pour vous, les vétérans, l'importance de leur sacrifice et le souvenir associé avec tout ce qu'ils ont donné? Il y a un homme qui a peut-être beaucoup plus de souvenirs de n'importe quelle personne dans cette salle. C'est un homme qui est le plus vieux vétéran au Canada vivant, honoré à 110 ans cette semaine. Donc, j'ai trouvé un article sur Monsieur Reuben Sinclair, qui a servi dans l'aviation royale au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a maintenant 110 ans. 110 ans. On dit des fois 110 ans, c'est le nouveau 90 ans. Vous avez compris ça déjà? Ils disent 60 ans, c'est le nouveau 40 ans. Mais j'ai du mal à dire que 110 ans, c'est le nouveau 90 ans parce que c'est quand même très âgé. Si vous demandez à Reuben Sinclair quelle est la clé d'une vie longue et enrichissante, l'homme de 110 ans n'hésitera pas à partager quelques mots de sagesse, dit l'article. « Ne vous inquiétiez jamais », a-t-il déclaré à une foule de collègues militaires et de journalistes quelques instants avant d'être honoré lors d'une cérémonie du jour du souvenir à l'intérieur d'une école primaire de Vancouver, mercredi. Si vous avez un problème, résolvez-le. Et cela fait beaucoup de chemin, a-t-il déclaré. Sinclair est le plus vieux vétéran vivant au Canada, ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale pendant 3 ans dans l'aviation royale canadienne. Son âge fait également de lui l'un des hommes vivants les plus âgés du pays, que ce soit un vétéran ou n'importe qui. Il dit, « J'ai toujours trouvé le temps d'aider les moins chanceux et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le bon Dieu me garde », a-t-il déclaré en riant. Sinclair a occupé différents emplois pendant la Grande Dépression avant de s'inscrire à un cours de comptabilité. Il a été embauché par le département du Trésor où il a travaillé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, sa fille dit que son père a dit qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire pendant que des gens mouraient en Europe. Il a rejoint l'aviation royale canadienne à 31 ans. Mais on lui a diagnostiqué des pieds plats qui l'ont empêché de servir à l'étranger. Et puis, au lieu de cela, il a servi comme mécanicien d'opérateur sans fil à Montréal. Déjà, à l'époque, il y avait le sans fil. C'est pas mal, c'est le radio. Okay? C'est presque le radio. Donc, Vancouver et North Battleford en Saskatchewan. Donc, ce sont des endroits où il a servi l'aviation royale, faisant fonctionner des émetteurs qui ont été utilisés pour former les pilotes à décoller et à atterrir sur des pistes obscurcies la nuit. Le programme préparait les pilotes à voler dans le ciel nocturne d'Europe. Sinclair vit toujours à l'intérieur de son condo à Richmond, où il reçoit le soutien de soignants. Il passe une grande partie de son temps à se remémorer les années passées, y compris son temps de la guerre. Sa fille dit qu'il est heureux de voir plus de membres de sa famille après avoir été séparés de beaucoup d'entre eux pendant la pandémie. Donc, c'est quand même une histoire touchante, n'est-ce pas, d'un homme qui a servi son pays, qui est apprécié par sa famille, qui a de bons mots, sagesse à dire à tout le monde, qui se réjouit de la vie et qui est encore en bon état. pour recevoir quand même des prix, des honneurs à cet âge avancé. Maintenant, on va changer de vitesse. Cette semaine, le 11 novembre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On va avoir juste un petit goût de la réalité de la guerre. La déclaration conjointe sur la violation par les Houthis de l'ambassade des États-Unis au Yémen, qui a eu lieu le 11 novembre de cette semaine, et la déclaration de violation a été faite le 12 novembre par le comté, par les représentants du gouvernement américain. Et ils disent ceci. Aujourd'hui, le 12 novembre 2021, les représentants Meeks, McCall et Bob Menendez et Gingrich, président et membre de premier rang de la Commission sénatoriale des relations étrangères, a publié la déclaration conjointe suivante pour condamner la violation par les Houthis de l'ambassade des États-Unis à Sanaa au Yémen, et le harcèlement et la détention subséquents d'actuels et anciens Américains au niveau local, le personnel salarié. Nous sommes profondément préoccupés par les informations selon lesquelles les Houthis ont fait irruption dans l'enceinte de notre ambassade à Sanaa et ont détenu et harcelé un certain nombre d'employés locaux américains et d'anciens employés des Nations Unies. De tels actes violent le droit international et les principes fondamentaux des droits de l'homme et ne doivent pas être tolérés. Ce n'est que le dernier d'une série d'actes de violence perpétrés par les Houthis. Au cours de l'année écoulée, les Houthis ont mené des centaines d'attaques transfrontalières contre l'Arabie Saoudite, menaçant des civils, dont les citoyens américains, et ont déployé de nombreux missiles balistiques à l'intérieur du Yémen. La nouvelle offensive contre le gouvernorat stratégiquement important de Marib a bouleversé d'innombrables vies yéménites, déclenché de nouvelles vagues de déplacements et exacerbé la pire crise humanitaire au monde. Les Houthis expriment depuis longtemps le désir d'assumer un plus grand rôle dans la gouvernance du Yémen. Mais la gouvernance s'accompagne de responsabilités et de la nécessité de respecter les principes fondamentaux des droits de l'homme et du droit international. Violer le territoire souverain d'une ambassade étrangère et menacer et détenir son personnel démontre clairement que les Houthis n'ont aucun intérêt à la paix, ni à apporter les changements nécessaires pour devenir des membres légitimes de la communauté internationale. Les Houthis devraient immédiatement libérer tout le personnel américain et de l'ONU et suspendre leur campagne de harcèlement. Ne pas le faire est inacceptable et aura des conséquences. Ah, on a changé de vitesse et c'est ça, mes amis, mes frères et sœurs, c'est ça la guerre. C'est ça ce que peut déclencher la guerre, n'est-ce pas? Ce type de choses, cet harcèlement, ces actes pris par certains groupes ou certaines personnes peuvent après avoir de fortes conséquences. Et ça, c'est la guerre. C'est ça, la guerre. J'ai trouvé un article à propos de l'impact de cette situation grave. La prise d'otages risque d'exacerber davantage les tensions dans cet état-là, en Yémen, autre chose, les tensions entre les États-Unis et l'Iran, qui arment et financent les rebelles Houthis au Yémen. Ah, les Houthis n'étaient pas vraiment indépendants, n'est-ce pas? Ils ont été armés et financés par les Iraniens. L'administration Trump a désigné les Houthis comme une organisation terroriste, mais cette désignation a été supprimée lorsque l'administration Biden a pris ses fonctions, une décision qui a été considérée comme un geste de bonne volonté pour amener l'Iran à engager des négociations diplomatiques visant à obtenir une version remaniée de l'accord nucléaire de 2015. OK, on revient à quelque chose beaucoup plus grand que la prise d'otage dans une ambassade. Ça remonte à un niveau international nucléaire. C'est pour ça que j'ai dit, ce sont ce type de choses qui peuvent déclencher des guerres, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des enjeux derrière, et voilà les enjeux. Les ventes illicites de pétrole iranien à la Chine par la route de soie. Si vous l'avez connu, la route de soie, on a déjà mentionné dans nos articles de l'ICRNE. Monsieur Hardberg en écrit de très bons articles là-dessus. Et donc, ça fait partie de cet effort-là, mais c'est quand même aussi sur le marché noir. Donc, les ventes illicites de pétrole iranien à la Chine ont grimpé en flèche ces derniers mois, alors que l'administration Biden tente de réintégrer l'accord nucléaire de 2015. Ce qui a fait craindre aux experts iraniens que les États-Unis ferment les yeux sur les violations des sanctions dans le but d'inciter l'Iran à revenir aux négociations. On va juste tourner le visage, on va fermer les yeux pour essayer de les convaincre de revenir. Voilà le contexte. Ça monte très haut, n'est-ce pas? Ça monte en grade très facilement. Donc voilà, je vous ai montré un contraste entre, si vous voulez, deux approches à la guerre. De l'un côté, nous avons un homme qui a servi son pays et on va lui rendre hommage, qui est dû quand même pour son service et son sacrifice, et en plus ceux qui ont vraiment donné la vie pour leur pays. Il y a de valeur dans cet acte-là. Je ne suis pas là pour dire que les gens ne doivent pas être appréciés, mais il ne faut pas qu'on glorifie non plus la guerre et ce que c'est la guerre. Ça serait d'aller trop loin. Dans notre perspective, je vous ai montré que il y a des actes qui sont prévus pour déclencher des guerres, pour arrêter des négociations importantes, et qu'il y a toujours, même cette semaine, si vous ne le saviez pas, moi je ne le savais pas le jour même, mais le lendemain, il y avait ces attentats, ces efforts, et nous sommes toujours très près au déclenchement d'une guerre, en réalité. Malheureusement, c'est le cas. Nous sommes presque toujours à 2 secondes du déclenchement de la guerre. Donc, dans notre premier serment dans cette série, nous avons souligné la signification du cheval blanc d'Apocalypse 6. Nous avons demandé, est-ce que tous les problèmes du monde sont d'origine du fait que l'homme a perdu ses convictions religieuses? Et nous avons demandé, est-ce que plus de religion serait la réponse de tous les problèmes d'humanité? Nous avons posé la question, est-ce que la religion du monde peut vraiment résoudre les problèmes mondiaux que nous faisons face comme race humaine? Si aujourd'hui nous voyons le monde moderne comme un produit de ces pratiques religieuses du passé qui ont dominé la civilisation, nous commençons à voir que la religion est plutôt une cause de problème qu'une solution. Le perspective commun dans le monde aujourd'hui, c'est de voir que toute religion est égale. Toute religion est une bonne poursuite de l'homme, purement même pour les raisons de l'humanisme, pour la progression, le développement des hommes. Nous avons discuté que le mentir de Satan et l'idée qu'il ment, nous avons discuté les faux enseignements qui ont circulé depuis des siècles, et même la philosophie grecque et son influence sur le christianisme des premiers siècles après Jésus-Christ. Alors, avec l'évangile qui a été prêché dans ces siècles-là, nous avons dit que malheureusement, des pratiques païennes se sont infiltrées dans les pratiques dites chrétiennes, et même dans le monde des Grecs, le monde philosophique des Grecs, les poursuites intellectuelles dans la métaphysique ont fait que la religion chrétienne, est venue plus en philosophie qu'en pratique. Malheureusement, même des divinités païennes ont été transformées en saints, en martyrs et en anges. Ils sont loués et il y a le culte de ces choses dans ce qu'on appelle l'Église romaine. Nous avons discuté pas mal de ces choses, même le fait que dans le forum de Rome, on a transformé des anciens temples païens en églises chrétiennes. Donc, nous avons discuté la montée en puissance de l'Église romaine catholique dans le Moyen Âge et les monarques en Europe qui ont pris ce pouvoir pendant la Renaissance. Et nous avons discuté la destruction qui a eu lieu au XXe siècle quand Adolf Hitler a déclaré l'État comme une religion. Et donc, le cheval blanc a beaucoup de signification. C'est un avertissement fort pour nous, comme celui d'Apocalypse 6, parce que nous sommes tous dans le danger de faire face au faux Christ et aux mensonges qui viennent de notre adversaire. Donc, nous souligne la nature de la fausse religion qui, enfin, va contre les enseignements de Dieu. Donc, revenons maintenant en Apocalypse 6. Nous allons continuer notre série de sermons, si vous voulez, sur Apocalypse 6, les premiers quelques versets. Apocalypse 6. L'apôtre Jean écrit ceci. Verset 1, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens, je regardais, voici paru un cheval blanc, dont on vient de parler, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et une partie d'un vainqueur et pour vaincre. Verset 3, quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Verset 4. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la haie de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Donc celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la haie de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Comme nous nous souvenons, chacun de ces cavaliers et ces chevaux sert comme symbole de quatre façons de punir la race humaine, si vous voulez, qui est en rébellion. Chacun représente, si vous voulez, la culmination de toutes les crises que le monde n'a jamais vu depuis des siècles. La fausse religion, la guerre, la famine et les maladies. Nous sommes en train d'étudier chacun de ces cavaliers, chacun de ces chevaux, chacun de ces symboles pour nous informer, pour nous rappeler et pour nous préparer de ce qui nous attend dans l'avenir. Donc, avant d'aller plus loin pour s'adresser à ce sujet du second cavalier et le second cheval, il est bien de noter qu'il y a quand même une progression naturelle qui arrive quand nous voyons certains événements dans le monde. Dans l'histoire d'Israël en particulier, quand le peuple d'Israël a oublié Dieu, ou ils ont tourné le dos à Dieu, ils ont été exposés souvent à des armées qui ont envahi. Et puis, la destruction qui a eu lieu avec les armées a souvent détruit ou menacé la production alimentaire et les récoltes. Et finalement, il y avait souvent la famine et les problèmes même. Certaines de ces choses sont décrites dans la Bible, la pénurie de nourriture. Et donc, quand les gens sont mal nourris, il y a souvent la possibilité aussi d'avoir des maladies supplémentaires, la peste et d'autres choses. Alors, ceci ne veut pas dire que ce n'est que ce cycle-là qui existe. Ceci veut dire que c'est une observation générale sur comment les choses peuvent progresser l'un après l'autre. Donc, le verset lui-même, le verset 4, il dépeint une image de la guerre et de toutes sortes de violences. Pas seulement la guerre qui est déclarée d'un pays contre l'autre. Il y a quand même la guerre qui existe, déclarée entre pays, mais il y a aussi une sorte de guerre qui peut exister entre certains peuples ou entre même des familles. Ça peut exister aussi, des guerres entre familles. Mais ceci est vraiment plus la violence que la guerre déclarée. Et si vous avez noté au verset 4, il n'y a pas le mot « guerre » au verset 4. Est-ce que vous avez lu le mot « guerre » dans le verset 4? Non. Le verset 4 ne nous a pas dit qu'il y a une guerre. Le verset 4 nous a dit le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Donc, c'est vrai que quand il y a la guerre, il n'y a plus la paix, mais je pense que nous avons une généralité aussi ici. C'est une violence qui existe en plus. Et maintenant, vous avez peut-être déjà pensé que oui, mais Jésus-Christ dit en Matthieu 24, ben, on va y revenir, ok? On va y revenir parce que ben, le mot guerre et bruit de guerre, c'est par là qu'on le trouve. Et c'est un verset accompagné. Donc, on va y revenir, mais pour le moment, songeons sur ce qui se passe quand on enlève la paix du monde entier. Je viens de vous décrire un article et je viens même de vous lire un article qui nous a décrit juste comment très vite le déclenchement d'une guerre peut arriver. Et il y a juste un événement comme ceci qui peut exister et si le pays est prêt, on peut déclencher la guerre comme ça. Si on enlève la paix, imaginez que tout le monde, tous les pays dans le monde qui auraient quelque chose contre leurs voisins, que tout en même temps, on se dit, c'est fini, on va déclarer la guerre à nos ennemis. Est-ce que c'est pas juste une guerre? C'est pas juste un conflit? C'est l'enlèvement de la paix de la terre. Et de plus en plus ces jours-ci, on observe avec les événements aussi naturels, les tempêtes, les choses, les crises, les feux, et ça devient une sorte de série de choses. Parce que quand il y a juste un événement ou une guerre, on peut, après cette guerre-là, dire c'est fini, on va se reposer, reconstruire, et on va se remettre debout pour vivre de nouveau. Mais quand les choses continuent sans cesse comme ça, quand ils ne s'arrêtent pas, est-ce qu'on a le moment de prendre un souffle, de reprendre le souffle, de se reposer? Non. Le repos, la paix est partie. Et donc, l'idée ici, c'est d'enlever la paix de la terre. Ce n'est pas en ce moment que Dieu envoie des armées sur la terre. Ce n'est pas marqué que avec le cheval à roue, que Dieu va envoyer ses armées pour punir. Ce n'est pas cette guerre-là, ça c'est bien plus tard. Mais nous avons l'image de quelque chose de très violent, où les hommes s'égorgent, et il n'y a pas la paix sur la terre. Donc ce verset lui-même nous parle de la violence sur toute la terre. Aujourd'hui, nous comprenons que le mot grec utilisé ici pour roue, c'est le mot pyros, qui veut dire enflammé ou roue. Et si vous considérez même en, dans le premier siècle, souvent ce type de bataille qui existait, l'invasion, des choses comme ça, on allait mettre feu aux récoltes. On allait mettre feu à tout ce qui était bien. On allait mettre feu aux maisons en paille, aux armes, à toutes sortes de choses. Et ce n'est pas juste dans le premier siècle que c'est arrivé. C'est pour ça qu'on a les bombes aussi. C'est pour détruire certaines choses, n'est-ce pas? Les gens veulent mettre feu. Ils veulent mettre feu à tout ce qui est puissant de son adversaire pour réduire la puissance de son adversaire. Donc, quand vous voyez des bombes, il y a une raison. Ce n'est pas seulement pour tuer les uns, mais c'est pour réduire la capacité de tout le monde. Donc, c'est ça qui existe depuis longtemps et on a transformé. Mais le principe est là depuis très longtemps. Quand on va à la guerre comme ça, on va essayer de détruire. On va essayer de ruiner l'ennemi. Et même des fois, on va essayer de tuer cette nation aussi, ou ce peuple. Et donc, il y a dans la guerre souvent le feu. Même si ce n'était pas juste dans le 20e siècle que ça a commencé, mais depuis très longtemps. Donc, voilà une raison pour laquelle nous pouvons considérer le mot pyros, qui serait flamant, rouge, qui serait quelque chose qui signifie quelque chose qui brûle, quelque chose qui détruit avec le feu. Et voilà, la guerre est comme ça. La violence les uns contre les autres. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on a fait des émeutes? On met feu aux voitures, on met feu aux stations de service, aux épiceries, aux magasins. Et donc, c'est comme une guerre. C'est une violence. C'est un acte de violence. C'est mettre le feu à quelque chose. Donc, comment alors, si nous sommes tout près, comme je vous ai mentionné, au déclenchement de la guerre, comment est-ce que le monde peut continuer dans ces conditions? Pendant plusieurs années, nous ne sommes qu'un coup de téléphone d'un déclenchement de la guerre nucléaire. Vous vous souvenez du football? Je ne sais pas si vous l'avez connu, le football américain. C'est pas un sport, simplement, mais c'est le mot pour décrire le briefcase ou le sac qui est porté par l'un des agents de sécurité pour le président américain. S'il veut déclencher la guerre nucléaire, il appelle le football et dans ce briefcase, il l'ouvre comme ça, il y a des codes et des choses pour lancer certains missiles et communiquer avec les points stratégiques aux États-Unis. Donc, on est juste à quelques secondes, quelques minutes au déclenchement de la guerre en tout temps. Qu'est-ce qui va pousser ces nations à ne plus avoir la paix? Ben, je dirais que quand l'accomplissement complet de ce verset, de ce passage, va avoir lieu, on va voir la guerre partout. Mais si vous voulez, dans un sens, ce cheval court déjà dans le monde. Donc, dans ce sens-là, nous voyons déjà les impacts de l'ouverture de ce saut, parce que le monde est de plus en plus en guerre. Mais il y aura quand même une culmination de toutes ces choses à venir. Donc, l'homme est-il capable de trouver la paix lui-même? Est-il capable de résoudre tous ces conflits? Est-il capable d'aller dire aux Yéménites de ne pas s'occuper de ces outils, de ces personnes qui vont les déranger? Non, l'homme n'a pas trouvé des solutions qui marchent. Il y a toujours, si un groupe disparaît, il y a toujours un autre groupe qui va apparaître. Donc, c'est plein de conflits, n'est-ce pas? C'est plein de conflits. Quelle est notre réaction à ça? Est-ce que nous sommes un peu comme Jonas? Oui, détruisez-les. C'est ce que Jonas a dit à Dieu par rapport à Ninive, n'est-ce pas? Il a dit à Dieu, ils vont pas se repentir, donc détruisez-les. C'est pas censé être notre réaction, hein, parce que Dieu a quand même montré à Jonas qu'il y avait son propre plan. Le pitié que Jonas aurait dû montrer à Ninive, Dieu l'a évoqué en Jonas en donnant la mort à cette petite plante, cet arbuste qui a poussé, et que Jonas a dit, pourquoi t'as tué ça, Dieu? Et Dieu a dit que il aurait fallu que Jonas ait la pitié pour Ninive, plus que cette plante qu'il a fait pousser. Et donc, si vous voudriez juste un verset, Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, Jésus a dit quelque chose de similaire, Matthieu chapitre 9, La guerre, frères et sœurs, c'est un grand sujet, donc pour moi c'était difficile à choisir ce que j'allais dire par rapport à ceci, mais j'ai trouvé ça un peu, c'était pas moi qui a choisi vraiment de mettre ça à côté du jour du souvenir, mais c'est arrivé comme ça. Donc c'est intéressant pour moi qu'on est arrivé à ce serment dans la semaine du jour du souvenir. Matthieu 9 et le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, je sais que ça, c'est quand même un saut peut-être, mais la compassion que Jésus a montré à cette foule-là, qui languissait, qui était abattue, qui n'avait pas de berger, ça devrait nous donner un exemple pour comment nous allons voir le monde autour de nous. Nous ne sommes pas, même si la guerre c'est terrible, même si ça détruit, ça perturbe notre vie, même si nous voyons le péché circuler dans le monde, et même si on aimerait que ça change plus vite, alors nous devrions garder la même compassion pour ces personnes autour de nous. C'est notre amour pour notre prochain qui doit être en premier, même si nous avons quand même été avertis par rapport aux maux de cette vie du monde. Donc, Jésus a vu que les gens avaient perdu le chemin. Et il y a même un verset en Ésaïe, j'oublie exactement ce que c'est, mais c'est que l'homme ne peut pas trouver le bon chemin. Depuis toute son histoire de l'humanité, le conflit armé a démontré à plusieurs reprises que l'homme ne connaît pas le chemin. Bien sûr, Jésus a eu une compassion, même pour ceux qui ne connaissaient pas leur chemin, même pour ceux qui l'ont mis à la mort. Mais du côté des hommes, les armées continuent à exister. Des millions d'hommes et femmes aujourd'hui font partie d'armées dans le monde entier. Des milliards de dollars sont dépensés toutes les années pour ce type de choses, pour construire ces armes et ces armées capables de détruire le voisin, le pays à côté ou celui de l'autre côté du monde, et la guerre continue. Et l'homme ne sait pas mieux, ne sait pas mieux faire. C'est comme presque comme des enfants. Et quand nous voyons des enfants, ils ont un conflit entre eux sur un jouet ou quelque chose comme ça, ils réagissent. Et nous, en tant qu'adultes, on sait que c'est pas la bonne façon de faire. Même si des fois, même les adultes se comportent dans une façon inappropriée, c'est pas censé de se faire, d'être arrivé comme ça. Mais pour les enfants, quand on les voit tirer sur le jouet jusqu'au moment que ça se divise en deux, on sait que c'est pas la bonne façon. Mais si on change juste un peu de perspective pour voir comment le monde essaie de résoudre ses problèmes, alors c'est pas mieux. Je dirais que c'est même pire. C'est presque un art, comme the art of war, comme ça a été déjà décrit par Mao Zedong. Un art de la guerre existe. C'est pas, on va essayer de trouver la paix, on va mettre ça de côté, mais on souligne l'importance de bien faire la guerre mieux que notre adversaire. C'est ça que le monde souligne aujourd'hui. Mais nous devrions reconnaître ces choses comme corrompues, comme pleines de péchés et de mensonges. Mais il y a quand même des gens qui insistent sur la guerre, même comme je vous ai dit, si ce n'est pas la guerre entre pays, mais la guerre entre des clans, entre des familles, entre des membres de la famille. Il y a plusieurs niveaux. Et ça revient toujours à la loi du plus fort de temps en temps aujourd'hui. Quelqu'un m'a même dit récemment, il y a quelques semaines, que ça serait quand même mieux si, quand les pays voulaient déclencher la guerre les uns contre les autres, que nos premiers ministres se mettent face à face et que ce soit eux qui vont se battre, au lieu d'envoyer nos jeunes faire le combat pour eux. Et puis, une fois que l'un des premiers ministres tombe, quelqu'un d'autre peut prendre le relais si la guerre entre ces deux hommes n'est pas finie. Mais, malheureusement, la guerre a beaucoup plus de sous-effets ou d'impact que juste se mettre face à face pour résoudre ces problèmes comme hommes. Donc, Dieu quand même a besoin de donner une inspiration, d'ouvrir les yeux à l'homme pour qu'il comprenne jusqu'à quel point il se trompe. Donc, il nous a déjà appelés, le Père nous a déjà attirés, il nous a déjà ouvert les yeux et il nous a offert son Esprit Saint pour qu'on devienne comme enfant, pour qu'on devienne ses enfants et pour qu'on se comporte pas comme les enfants du monde, mais comme les enfants de Dieu. Philippiens chapitre 2, Paul nous dit que nous vivons parmi une génération corrompue. Ça ne devrait pas nous impacter. Notre façon de faire ne devrait pas imiter les nations qui nous entourent. C'est exactement ce que l'Éternel disait à Israël dans le passé, c'est que il ne faut pas que toi, Israël, que tu fasses comme les autres autour de vous. C'est exactement comme ce que lui disait à Israël. Mais en Philippiens, chapitre 2, et verset 15, nous voyons cet exemple ici. On peut commencer en verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant, la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Ce sont les propos de l'apôtre Paul, là, qui a œuvré, qui a fait dédier sa vie à prêcher l'Évangile et à rendre service à Dieu. Et donc, il dit que même si c'est ténébreux tout autour de nous, nous devrions briller. Et nous devrions briller en étant irréprochables, même au milieu de cette génération. Donc, notre comportement n'est pas censé de refléter les choses du monde. Est-ce que nous sommes capables de discerner les mots, les choses perverses et corrompues derrière nous? J'espère que Dieu nous a donné le discernement nécessaire, parce que c'est quand même beaucoup de mensonges, beaucoup de tentations, séductions associées avec ces choses. On peut facilement être porté à faire comme le monde. Même Jacques nous écrit dans Jacques chapitre 4, qu'il nous avertit. Et il pose une question intéressante. Parce que aujourd'hui, je commence en disant que on n'est pas simplement en train de parler de la guerre déclenchée entre deux pays, mais la violence, l'esprit de guerre, si vous voulez. Et Jacques nous dit dès le début du chapitre 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Si on imagine que derrière toutes ces guerres que l'homme a déjà vues et vécues, qu'il y a des passions qui l'ont poussé à faire du mal à l'autrui ou à prendre ce qui appartient à l'autrui, ce sont des passions. Hitler était un homme de passion et les gens l'ont vu et les gens l'ont suivi parce que c'était un homme plein de passion, n'est-ce pas, qui a fait de beaucoup de mal avec ses passions. Et il a inspiré la passion dans d'autres personnes à faire le mal. Et c'est ça qui est derrière ces choses, n'est-ce pas? Mais ça revient jusqu'à notre niveau aussi. À notre niveau aussi. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je dirais que ce type de choses est adressé à quelqu'un qui, quand ce passage allait être lu dans l'assemblée, est-ce que c'est les personnes converties qui sont des meurtriers, qui sont envieux comme ça? Je pense pas. Mais à l'époque, quand Jacques et d'autres épîtres étaient lus, il y avait les portes n'étaient pas souvent fermées tout autour. Il y avait des gens de passage, il y avait des gens qui étaient là. Et on annonçait ces choses à tout le monde, pas simplement à ceux qui étaient dans la salle. Mais les gens, des fois, ils s'intéressaient. Ça me fait penser à nos voyages en Afrique que j'ai fait en 2014, 2015 et pendant quelques années aussi. C'est qu'on avait des salles dans des bâtiments faits vraiment à l'ancienne façon, des bâtiments tout ouverts, avec quelques fenêtres, avec quelques portes, mais sans la porte, juste des ouvertures de portes. Et les gens passaient dans les petits villages, et eux, ils allaient nous approcher, ils allaient venir s'asseoir quelques instants, puis partir après. Ou même quand on faisait un baptême, on allait procéder dans la rue du village, et des fois les gens du village allaient nous suivre jusqu'à l'endroit où on allait faire le baptême, et ils écoutaient, ils regardaient, parce que ce sont les membres de leur village. Donc ça me fait penser à ce type d'interaction-là. Mais ça veut dire que quand on voit le monde et les guerres qui existent dans le monde, on peut se demander au monde, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? Et voilà, nous avons une belle réponse. Mais nous ne sommes pas quand même complètement, à l'écart de ces choses. Nous sommes susceptibles, si nous nous associons avec le monde, nous sommes susceptibles même à ces choses, parce que nous sommes encore humains. Il continue et il dit, verset 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Donc, c'est une question intéressante. Notre réponse, c'est de se soumettre à Dieu, de résister, verset 7, résister au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc nous sommes capables de retomber dans le péché. Il y a quand même pas mal de personnes. L'Église était très grande à l'époque, n'est-ce pas, de worldwide, de l'Église de Dieu universelle. Et il y en a pas mal qui sont partis et qui ont tout de suite fait des choses que pendant des années ils ne voulaient pas faire parce qu'ils pensaient, ils croyaient aux Écritures. Et il y en a qui sont partis tout de suite et ils ont fait pas mal de choses parce qu'ils n'avaient pas, cette idée de se soumettre à Dieu. Ils avaient envie de sortir de là. Ça résume beaucoup, mais c'est tout un sujet. Mais il y a quand même un certain aveuglement qui peut s'installer quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'éloigne de son plan de salut, quand on s'éloigne de ses fêtes annuelles qui nous servent de rappel de ce grand plan. Donc, nous avons des choix à faire et nous avons besoin de se séparer de ces habitudes du monde. Des fois, les guerres, même dans la Bible, avec les guerres, ont poussé de certains conflits interpersonnels. Et comme je vous ai mentionné, ça peut arriver au niveau culturel, au niveau de la race de la personne, d'une sorte de nation. Et même si on pense à la guerre de 100 ans en Europe, c'était vraiment quelques familles qui allaient lutter pour le contrôle de l'Europe pendant toute une centaine d'années. Donc la guerre peut vraiment être maniée par des personnes qui ont des intentions à eux. Ils ont des certaines intentions. Nous n'allons pas étudier en détail cet aspect aujourd'hui, mais si nous lisons en Daniel et si nous considérons les résurrections de l'Empire romain, toutes les nations qui allaient successivement monter en puissance, alors nous avons la guerre est associée avec ces choses aussi. Chacun de ces empires a fait la guerre contre d'autres empires. Il n'y avait pas juste un simple passage de pouvoir, un agrément entre ces empires-là. Ils ont réussi par la guerre. Et ça, ça vient d'un esprit de ce monde. Si nous essayons de définir dans le contexte du Nouveau Testament ce que c'était la guerre, c'est un état... c'est pas juste la violence, mais la guerre déclenchée, c'est plus un état de conflit armé entre deux groupes de gens, dans lequel la violence mortelle est utilisée afin d'avoir une influence sur l'autre pour convaincre, dans un sens, l'autre à faire sa volonté. Un érudit, M. Karl von Clausewitz, a décrit la guerre comme une activité engagée dans des États, comme une continuation de commerce politique par d'autres moyens. Donc l'idée, c'est que la guerre, des fois, accomplit, bien sûr, des fins politiques. Donc même des nations ou des groupes ont persévéré avaient un aperçu, une perspective que eux, ils étaient en paix, même si dans certaines régions du monde, nous avons la paix en général, la guerre, c'est quelque chose qui a continué depuis toujours. Même dans le Levant, cet endroit a eu beaucoup de guerres. Et certains endroits en Europe ont été aussi très contestés. Et donc, beaucoup de guerres se sont passées. Donc, nous avons plusieurs exemples de comment la guerre n'est pas en ligne avec la vérité, avec la vie, avec la façon de vivre que Dieu exige de nous. Heureusement, nous avons, pendant la fête des tabernacles, nous avons mentionné plusieurs passages qui nous parle de la fin de la guerre, comme Michée chapitre 4, comme Zacharie chapitre 9, comme Ésaïe chapitre 2. Chacun de ces passages va souligner la fin de la guerre que nous attendons. Mais Jésus-Christ, en revanche, a dit que la guerre c'est quand même comme une douleur d'enfantement. Ça veut dire que la guerre va nous dire qu'il y a un âge à venir qui va bientôt s'installer aussi. Donc, pour arriver à cette paix, prophétisée dans l'Ancien Testament et confirmée dans le Nouveau Testament, il faut quand même qu'il y ait la guerre. C'est comme ça que Dieu a prévu, parce que c'est dans la nature humaine et c'est dans l'homme d'être en révolte et d'aller jusqu'à ce point-là, ce point mortel, ce point de conflit armé pour rester en rébellion, pour rester, pour défendre son pouvoir, ou au moins le pouvoir qu'il pense posséder. Donc, quand nous considérons la prophétie, il est important de considérer l'avertissement qui est dedans. L'avertissement dans la prophétie nous aide à nous préparer pour les choses qui vont suivre. Et c'est dans ce contexte, maintenant, que nous allons regarder Matthieu 24. Matthieu 24, en particulier le verset 6. Avec tout ça comme contexte, et avec cette idée que la prophétie devrait nous pousser à agir ou avoir un avertissement qui peut nous aider, qui peut nous... c'est pas juste une connaissance, une sorte de savoir de ces événements, mais c'est aussi le but, l'un des buts de la prophétie, c'est de nous faire penser à notre besoin, soit de se repentir, soit de se préparer pour les choses à venir. Et comment a-t-il dit de se préparer? Jésus nous a dit dans Matthieu 24, verset 6, dans ce qu'on appelle le discours sur le mont des Oliviers, il nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, même si nous observons ces choses arriver, aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que Jésus déclare ici. Parce que ça fait partie de cette explication. Nous pouvons même faire un lien, tisser un lien entre Apocalypse 6 et Matthieu 24. Parce que il y a la séduction qui est mentionnée d'abord, dans le verset 4. Il y a la guerre qui est mentionnée ici au verset 6. Et après, juste après, il y a, après, en verset 7, il y a les famines qui sont mentionnées aussi. C'est intéressant que ces choses apparaissent en parallèle. Et dans le même ordre aussi, ce n'est pas une coïncidence. La première chose que Jésus nous dit dans le contexte de la guerre ici, que nous allons voir, que nous voyons aussi autour de nous, c'est gardez-vous d'être troublés. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous troubler. Quand je vous dis ces choses, quand je vous lis l'état des lieux de notre société, l'état des lieux de ce monde, c'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas notre objectif. Je sais qu'on, de temps en temps, dans d'autres endroits, on va peut-être profiter de la peur pour manipuler les gens, on va faire peur aux personnes pour leur... pour imposer notre volonté. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes censés de prêcher la prophétie. Ce n'est pas pour avoir la peur qui règne, non. Ça devrait nous faire penser à notre besoin d'être un avec Dieu, de s'approcher de lui, comme nous avons lu tout à l'heure. Mais ce n'est pas le but de nous faire un état de peur, de nous faire vivre en peur de ces choses. En fait, c'est tout à l'opposé. Et c'est confirmé par ces petits propos, ces grands propos de Jésus ici. Gardez-vous d'être troublés. Si on médite sur cet avertissement, sur cette exhortation on peut passer beaucoup de temps à penser, je dois me garder d'être troublé, et comment ferais-je pour me garder de ce trouble, pour ne pas être touché, si vous voulez, par les choses qui se passent autour de nous. Il y a quelques années, Monsieur Meeker, le directeur de l'œuvre francophone, a donné un serment sur la peur. Est-ce que vous l'avez peut-être regardé ou lu, consulté? Il a fait en fait son serment basé sur le tableau de Pablo Picasso qui s'appelle Guernica. Et dans son serment, il a même montré un diapositive avec Guernica. Et il a décrit dans son serment, dans une petite partie, l'œuvre de Picasso et la composition, si vous voulez, de Guernica. Et donc, pour revenir un peu à ce thème-là, je pensais que c'était intéressant parce que c'est lié à la guerre, n'est-ce pas? Donc, cette œuvre de Pablo Picasso a fait le tour du monde aux années 30. Et c'était pour encourager un sentiment antifasciste et pour développer des fonds pour les troupes de la République espagnole. Mais Guernica, l'histoire derrière, c'est que Guernica était un village en Espagne qui a été ciblé par le Luftwaffe, la force allemande, la Luftwaffe, les avions des Allemands, les nazis. Et donc, Guernica, c'était un petit village, et c'était un allié, général Francisco Franco, qui avait mené une rébellion contre la République espagnole, et les nazis allaient rendre service à cet allié en faisant un bombardement dans ce petit village. Et donc, malgré le fait que ce type de guerre est devenu commun, Guernica illustre la peur, ça illustre les façons de faire de la guerre moderne, et c'est quand même très profond à étudier. Les images sont violentes, viscérales, et ils nous aident à considérer la terrible réalité de la guerre. Mais dans le serment de M. Meeker voulait dire que la peur peut dominer sur les personnes. La peur peut dominer. Et dans son serment, il a mentionné l'importance de nous sauver de la peur, de ne pas être dominé par la peur. Et je trouvais intéressant qu'il a donné quelques points pratiques d'un livre qui s'appelle Fear Itself, ou La peur soi-même. Et je voulais le partager parce que nous sommes dans le contexte de ce que Jésus-Christ même a dit. On ne soit pas troublé. Donc il faut qu'on agisse pour ne pas être troublé. Donc, il y a quelques points pratiques que nous pouvons faire. Et dans un livre qui s'appelle « La peur soi-même » ou « Fear itself », il était mentionné ces points pratiques. On peut passer moins de temps sur Internet et devant la télévision. Parce que souvent, il y a des images et des sons et des choses qui sont faites pour nous perturber, pour nous troubler justement, pour avoir un impact sur nous. Donc la recommandation du livre, c'était de chercher à s'informer par du média texte, par la lecture, et d'éviter les vidéos et les images violentes quand on va s'informer sur ce type de sujet. Il a mentionné que dans le livre, on a dit que beaucoup de personnes font de l'argent sur nos peurs, basées sur notre façon d'avoir peur. Un autre point pratique, c'était de rester sceptique quand quelqu'un vous dit que tout ce type de gens sont mauvais. Quand on va faire ce qu'on appelle une catégorisation des gens. Quand les gens nous disent aux médias que tous ces gens sont mauvais. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Depuis ce serment-là, moi je l'ai vu, les gens maintenant sont programmés d'avoir peur de ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est quelque chose de commun, n'est-ce pas? Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises et j'ai entendu dire aussi que d'entre vous, il y a des personnes qui vous ont traité avec ça, que même si eux étaient vaccinés, que vous, vous n'étiez pas vaccinés et eux, ils avaient pris une distance. Et pas une distance, tu dirais, normal, quelque chose d'exagéré. Et c'est parce que, à mon avis, c'est le fruit de beaucoup d'investissements à faire peur aux gens. On va développer la peur, même la peur de l'autrui, la peur de celui qui est à côté. Parce que si on a peur de cette personne, on est plus à porter à les maltraiter et ça va éventuellement les faire penser « Oh, je devrais me faire vacciner parce que je veux pas être traité comme ça. » Simplement pour ce point-là, parce que tout le monde a envie de faire partie du groupe, d'adhérer, d'être apprécié. Et si on a peur de quelqu'un qui n'est pas vacciné pendant longtemps, ça peut produire des émotions dans la personne. Et cette personne peut éventuellement se dire, pour la raison du fait que je devais, que je veux pas m'isoler, et d'être traité comme ça, je vais me faire vacciner, simplement. Donc, on a joué récemment sur nos peurs, et on continue. Ok, on continue. Et donc, le livre nous propose aussi, si on a peur de quelque chose, par exemple, si on a peur d'avoir une tempête de neige et de perdre Hydro-Québec pendant une semaine, si c'est un peur que nous avons, je sais que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, alors faisons des préparatifs pour, dans le cas de cet événement éventuel, qu'on soit gré, qu'on soit prêt de faire face à cette chose. Et ça peut aussi enlever la peur de cet événement, de cette possibilité. Si on a peur de ça, et on fait rien, bon, c'est justifié d'avoir peur de ça, parce que ça pourrait nous arriver, n'est-ce pas? si on a peur, c'est parce que il faut des fois faire quelque chose pour résoudre le peur que nous avons. Et donc, voilà, c'est censé de faire les étapes d'amélioration. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire pour réduire la peur. Malgré tout, les médias vont nous montrer des choses comme quoi il y a beaucoup de gens qui font le mal. Ils vont souligner le mal qui existe dans la société, le mal qui existe, même je veux dire, je vais pas aller dans les choses potentiellement politiques, c'est trop, mais j'ai peur d'y aller. Trop, non, mais ce que je veux dire, c'est que les médias vont nous montrer des choses qui sont censées nous faire peur, et ils vont également peindre une image du monde comme quoi le monde entier, qu'il n'y a personne de bien dans le monde. Et en faisant ça, il y a peut-être de bonnes choses qui se passent ici ou là, et peut-être on va choisir de mettre quelque chose qui donne peur, au lieu de nous encourager. J'ai trouvé ça intéressant quand nous vivions aux États-Unis sur NBC News, quelque chose comme ça qui arrive tous les soirs, les infos sur la télé, quand je regardais ça dans le passé. Peut-être dans les dernières 3 minutes de cette émission-là, après toute une heure ou une demi-heure sur les choses qui pétaient, les choses qui allaient mal, on allait faire une petite chose sur un animal, sur un chiot qui a pu sauver la vie d'un chat ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est OK, on a fait le nécessaire pour encourager les gens. C'est les quelques dernières secondes de l'émission. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu aussi. Mais je ne sais pas si c'est un sujet ici au Canada. Donc voilà, ne laissons pas, ne permettons pas notre peur, si on a peur de quelque chose, de nous faire isoler, de nous faire devenir isolés. C'est prouvé que l'isolement, la séparation, ça augmente la peur. Nous avons besoin d'être parmi d'autres. Nous avons besoin de connaître le voisin. Nous avons besoin de faire des connexions, des liens avec des gens pour, et en fait, c'est prouvé qu'en faisant ça, nous allons réduire la peur. Nous ne sommes pas faits pour rester seuls autant, parce que je trouve que c'est même quelque chose de plus moderne, l'isolement que les gens voient et qu'ils vivent aujourd'hui. C'est tellement exagéré, en particulier chez les jeunes. Et ils sont allés jusqu'au point, dans les semaines récentes, de créer quelque chose qui s'appelle le Metaverse. C'est une entreprise Facebook qui a essayé de créer un endroit où on met des VR, Virtual Reality, la réalité virtuelle, et on y va en 3D, et on reste dans notre petite chambre chez nous, et dans cet endroit, on est parmi d'autres. Mais en réalité, où est-ce que nous sommes? On est toujours dans notre chambre chez nous. C'est intéressant que les gens vont inventer quelque chose pour remplacer la réalité qui est négligée, je dirais. On n'a pas besoin de metaverse parce que Dieu a déjà inventé l'univers ou l'univers. Donc, nous devons faire confiance à Dieu et lui, il peut nous protéger dans ces moments, mais en même temps, nous avons besoin les uns des autres aussi. Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a fondé l'Église bien pour une raison, pour que ça soit un corps bien solide, comme Paul le décrit. Donc ça, c'est une chose qu'il nous a dit ici, dans Matthieu 24. Face à la guerre, ne soyez pas troublés. Et pourquoi? C'est parce que ces choses doivent avoir lieu. Il faut que ces choses arrivent, c'est ça le mot exact. Il faut que ces choses arrivent. Ceci nous rappelle du plan de salut, les choses qui doivent se passer pour accomplir le plan du salut. Il faut que ces choses arrivent. C'est toujours réconfortant de savoir que dans toute chose, Dieu a un but. Il a un but dans la souffrance, il a un but dans la joie. Il a un but dans l'abondance, il a un but dans un manque. Et ce sont, par tous ces outils, si vous voulez, qu'il a accompli quelque chose en nous et à travers nous. Donc c'est quelque chose de magnifique, la façon que Dieu se sert de toutes choses pour accomplir son plan. Donc c'est quand même un encouragement, c'est un encouragement face même à la guerre. Et encore, une dernière chose qui nous mentionne, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Donc, moi j'ai envie que la pandémie soit terminée, soit finie, qu'on n'en parle plus, qu'on y passe et qu'on commence quelque chose de différent. Peut-être ça peut se faire, mais même si cette pandémie prend fin, ce n'est pas la fin, si vous voulez, de tous les maux qui vont arriver, de toutes ces choses qui doivent se passer avant le retour de Jésus-Christ. C'est ça que nous attendons. Nous prions que ton royaume vienne, n'est-ce pas? Que ton règne vienne. Et nous sommes du bon côté, nous sommes du côté de Dieu, nous sommes de son côté. Nous ne sommes pas en train de craindre le jugement de ce monde, parce que nous sommes du bon côté. Nous vivons dans la joie d'être du bon côté, d'être averti et d'avoir cette connaissance qu'il y a quelque chose de meilleur après ces choses actuelles. Nous avons déjà mentionné le passage dans les prophètes qui parle et qui nous rappelle de penser, quand Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, de penser à ce royaume et de le chercher premièrement. Et sa justice aussi. Donc c'est ça, une leçon pour nous. C'est que c'est pas encore la fin. Et ça peut aussi passer de génération en génération. Même l'apôtre Paul, les apôtres dans le premier siècle, dans l'église du Nouveau Testament, eux, ils pensaient, ils avaient en tête que ça, c'était presque l'heure de l'arrivée. C'était que ça allait se passer dans leur vie, pendant leur vie. Mais même si nous gardons cette perspective que ça pourrait nous arriver de voir le retour de Jésus-Christ dans notre vie, il faut quand même continuer à persévérer parce que ce n'est pas encore la fin. Il reste d'autres choses et c'est Dieu qui déterminera ces choses, ces événements. On m'a même dit que certains hommes essayent de préciser une date précise du retour de Christ. Jusqu'à présent, je pense que personne qui l'a prévu a réussi, parce que Christ n'est pas le retour, et il y a eu pas mal de prédictions déjà, depuis plusieurs siècles, je dirais, et même dans l'époque moderne, on va essayer de fixer une date. Ça, ce n'est pas notre priorité ultime, ce n'est pas de fixer une date. Ce n'est pas comme ça que Jésus s'est exprimé en disant qu'il y a du bruit de guerre. Il n'a pas dit qu'il y a des guerres, des choses. C'est pas la fin, mais il faut déterminer la date pour que vous sachiez quand c'est la fin. C'est pas écrit, ça. Il a dit persévérer jusqu'à la fin. Les choses doivent se passer. Et c'est important de garder cette perspective. Nous ne sommes pas les décideurs de quand ça va se terminer. Nous ne sommes pas dans le conseil, si vous voulez, de ceux qui vont décider quand le jour va arriver du retour de Christ. Mais, par contre, nous avons été quand même prévenus que certaines choses vont se déclencher. On pense à 3 années et demie, on pense à certaines choses qui doivent se passer. Donc, ces choses sont pour nous encourager que la fin arrive bientôt. Mais ce n'est pas nous qui déterminons la fin. Ça revient toujours à cette parabole des vierges sages et des vierges folles, n'est-ce pas? Notre job, c'est pas de savoir à quelle heure le Christ va revenir, mais c'est de garder l'huile dans la lampe, n'est-ce pas? Et d'en approvisionner avec nous tout le temps. Et c'est un symbole de l'esprit. Donc nous devons développer l'esprit en nous, remuer l'esprit de Dieu en nous et faire de bons fruits avec. Donc c'est ça notre priorité, même si les choses autour de nous semblent être en destruction, en guerre, troublées, même si le monde entier est troublé, Dieu est notre rocher, notre salut. Donc, nous devons chercher, en conclusion, nous devons chercher d'abord en nous, parce que, comme Jacques nous a dit, d'où viennent ces luttes et ces conflits? Ils viennent d'ici, du cœur. Nous ne devons pas devenir une source de conflits avec notre attitude, avec les choses que nous... avec nos mauvais choix, quoi. Et donc, nous avons besoin de maîtriser nous-mêmes et de se préparer pour l'avenir, parce que ces choses ne sont pas encore terminées. Et je pense que une bonne façon de préparer pour cet avenir, c'est d'autant plus de s'impliquer dans l'Église et d'être unis et d'être formés comme un bloc pour que tout le monde fait face à ces choses ensemble. Ce n'est pas censé retourner chez soi et de rester seul. Ce n'est pas comme ça que c'est prévu. On a besoin les uns les autres. Donc, nous avons des efforts à faire pour garder ces liens et pour renforcer ces liens. Bien sûr, nous pouvons le faire 7 jours par semaine. Ce n'est pas limité au sabbat hebdomadaire. Nous devons reconnaître que c'est Dieu qui a la main sur toutes ces choses et ça devrait nous rendre en paix. Ça devrait nous donner la paix. Même si nous avons la paix, nous sommes censés de toujours veiller et prier. Si nous avons la paix et nous prenons le temps de nous divertir au lieu de veiller et prier, alors on risque d'être surpris. Et nous avons besoin d'exercer le discernement pour déterminer quand les choses vont essayer de nous séduire, nous influencer, comme les médias, comme vous l'avez mentionné, pour augmenter notre peur. On peut faire face à ces choses avec des points pratiques et aussi avec l'aide de celui qui nous a appelés. Donc, faisons confiance en Dieu, c'est lui qui maîtrise la situation. Même si l'homme détruit le monde, même si on était capable de, et on est presque capable de détruire toute vie sur la terre, Dieu va intervenir dans son propre timing, au bon moment, et il va sauver l'humanité de cette autodestruction. Cette autodestruction qui est le résultat d'un esprit de guerre qui existe depuis des millénaires. Frères et sœurs, nous ne sommes pas condamnés à imiter le monde autour de nous. Nous sommes avertis et nous devons rester tout près de celui qui nous a avertis, qui nous a ouvert les yeux à ces choses. Celui qui nous a dit, ne soyez pas troublés.